Parlons sport sur RTV FM.
RTV FM.
RTV FM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur RTV FM, l'émission du sport local, avec en compagnie de Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Avec notre ami Théo à la technique. Bonsoir Théo.
Salut Jean-Yves et salut Valérie.
Bonsoir. Et puis notre invité Roland Davo qui manifestement a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Lionel ce soir est excusé aussi, donc je vais avoir le plaisir de le remplacer. J'espère que je le remplacerai de manière efficace. Au programme ce soir, Valérie, du sport, encore du sport et toujours du sport avec les résultats locaux. On va parler de hand, on va parler de basket, on va parler de rugby à 13. On va aussi parler de foot et d'un tas de sports. On aura les résultats. Et puis, un petit peu plus tard, si notre ami Roland Davo nous rejoint, eh bien, on parlera de sport avec lui, de sport carpentracien et de l'ancien comité départemental olympique et sportif. Et puis, s'il n'est pas là, eh bien, on trouvera de quoi meubler un petit peu, t'inquiète pas. On va faire avec.
On aura un petit duplex aussi avec Maxime.
On aura aussi un duplex avec Maxime Pala, le directeur technique, directeur sportif de Carpentras 13, après cette superbe victoire ce week-end du côté de Ferrals, en terre audoise, où il n'est jamais facile d'aller s'imposer. Et puis, voilà, on survolera l'actualité sportive du week-end, Valérie.
On fera comme ça.
Allez, on attaque avec les résultats, si tu veux bien.
Ben, aujourd'hui, je vais commencer par le foot. En Ligue Méditerranée, en Régional 1, Pernes donc recevait Carqueiran et Pernes s'est imposé 2-1. Pernes est au classement général 10e, hein, très loin évidemment devant le premier Marignane. Ensuite, il y avait les féminines aussi en Régional 1, Monteux recevait l'AC Avignon, 0-2 pour Avignon. Donc Avignon est 3e au classement général, à un tout petit point du 2e et du 1er, hein, Nice-Marseille. Et Avignon hein, est 3e et Monteux est 6e avec 23 points. On continue au Grand Avignon, donc en D1, Pernes recevait Montfavet 0-1, Autre-Provence Gadagne 0 partout. Entraigue Boulbon 3-0, Sorgue, ben tiens, nos amis de Sorgue, Nove 2-4. Au classement général, Pernes est 9e, Sorgue 11e, Entraigue 12e. En D2, Poule A, Château-Renard, donc le recevait Monteux 1-3. Monteux est 4e au classement général avec 38 points. En Poule B, donc Entraigue Molégès de 0-2. Pertuis Saint-Didier 3-2. Nos amis de Saint-Didier se trouvent à la 12e place avec 26 points, très 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 loin derrière les premiers. En D3, Poule A, Sorgue Malocène 1-1. Provence RC Monteux 2-0. Au classement général, Malocène est 10e et Monteux 11e. En Poule B, D3, toujours les dentelles contre Sarriant 1-0. Caderousse, Étoile d'Aubune, 7-2. Caron-Avignon, 0-1. Altin-Piolenc, 1-1. Au classement général, Carpentras est 4e. Altin, 1er, hein, avec 52 points. Caron, 11e. Étoile d'Aubune, 12e. Sarriant, 13e. Et Bédarine, 14 et dernier. En D4, Poule A, il y avait Orange-Ventoux-Sud, 0-2. Autre-Provence, Travaillant, 3-1. Caron Saint-Romain qui a été remis, et Orange Sarriant 9-0. C'est pas du rugby, hein, c'est du foot.
Ça aurait pu.
Allez, au classement général, Caron, ben, son dernier, hein, avec 0 points. Sarriant, 13, son 13e, en fait, avec 16 points. Sur les premiers, c'est Autre-Provence, 56 points. En Poule B, Bosquetaine Saint-Didier, 2-4. Caderousse Rasto, 3-2. Au classement général, Visant, 5-0. Au classement général, Serre est premier avec 46 points, suivi de Camaret. Saint-Didier est 7e avec 35 points.
Juste un mot de football aussi en N3, la plus grande, on va dire, la plus grande division régionale. Le club qui nous intéresse dans cette division N3, c'est le Ponte. Le Ponte qui a été défait sur sa pelouse par le club corse de Luciane, me semble-t-il. Et le Ponte qui est en vraie grande souffrance dans cette poule de N3 et qui va probablement avoir un petit peu de mal à se sauver. En tout cas, ils ont perdu sur leur terrain. Ils sont 11e de ce championnat. Ça commence à pas sentir très très bon pour le Ponte. Il y avait aussi un match féminin. Il y avait le match au sommet ce week-end. On l'a pas dans les résultats, mais je l'ai vu ce week-end. Les filles de Monteux ont été défaites.
Oui, contre Avignon.
Ont été défaites par Avignon.
Je l'ai dit. Ouais, je l'ai
dit. Excuse-moi, Valérie, j'avais pas.
Non, mais c'est pas. Hein, j'avais dit Monteux se retrouve donc du coup 6e.
Un petit bonsoir à notre ami
Roland.
Roland qui vient d'arriver. Bonsoir Roland.
On va les laisser s'installer.
On va laisser s'installer puis on le prendra après. Voilà, allez, on continue, Valérie.
Je vais continuer donc avec justement du basket. Du basket, Sorgue recevait Orchi, 66-87.
J'y étais.
Voilà, Orchi est 5e et Sorgue 6e.
Ouais, ça a été compliqué pour les Sorguais qui ont tenu, on va dire, trois quarts-temps. Et puis, ils ont un petit peu explosé dans le dernier quart-temps. Il y a plein de petits soucis en ce moment dans l'effectif Sorgué. Il y a des mecs qui...
Il y a des blessures aussi.
Non, il n'y a pas de blessures, mais il y a des garçons qui ont du mal à tenir leur rang. Les gars qui ont beaucoup, beaucoup joué ce week-end, cette saison, pardon, et ben ils ont du mal. John Boucault n'a pas été aussi efficace qu'à l'accoutumée au shoot. William Mensah est en grande difficulté. Alors je sais pas si on peut parler de difficulté mentale, mais il a du mal à prendre ses matchs comme il les prenait jusqu'à maintenant.
Parce que jusqu'à présent il jouait très bien, hein.
Voilà,
c'était
et puis
le meneur, quoi.
Et ben voilà, mais quand tu sais, dans un groupe comme ça, et puis le banc est pas très, y a pas une énorme profondeur, ouais, de banc. Donc ben il y a des mecs comme David Condé qui ont tenu un petit peu la baraque, qui marque quelque chose comme 19 points me semble-t-il, David, et puis finalement sur la fin ça explose. C'est pas grave, les Sorgués sont toujours 6e, ils ont assuré leur qualif dans la poule du milieu. Mmh. Et ben voilà, la saison va pouvoir continuer.
Voilà, sans pression.
Sans pression, non, parce que l'objectif est atteint finalement, puisque
de se maintenir, oui.
C'était vraiment le maintien avec un groupe qui avait été reconstitué à 90%. Il manquait, il y avait le seul qui était resté par rapport à l'effectif de la saison dernière, c'était Wayne Morris, le capitaine. Oui. Wayne d'ailleurs qui n'était pas là ce week-end, il était grippé. On le sent quand Wayne n'est pas là. C'est pas grave. Voilà, les Sorgués sont là, ils vont se qualifier, le boulot est fait. Bravo.
Tout à fait. Surtout qu'on avait vu, c'est vrai, on a vu deux matchs super, hein, quand on a été faire des directs. C'était vraiment de très 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 beaux matchs, même s'ils ont perdu leur deuxième match qu'on a été voir, Coupe de France.
C'est un petit peu tu touches là le vrai problème en fait de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui joue beaucoup au mental et beaucoup à réaction. Et quand tu fais des saisons entières sur le mental et sur l'envie et sur un petit peu à l'image de ce qu'on va voir avec Carpentras 13, et bien il arrive un moment où tu te fatigues, où tu réponds un peu moins présent, et bien c'est à ce moment-là que tu exploses.
Ouais, d'accord. Là, je vais continuer avec du hand aussi, avec les féminines de Mazan, hein, qui ont fait un match encore époustouflant contre Val d'Argens, 40-26. Val d'Argens, c'est quand même les deuxièmes au classement général. Hein.
Ouais, les filles de Mazan qui sont en feu en ce moment, elles viennent d'enchaîner 3 ou 4 victoires d'affilée. Elles ont intégré des gamines. Elles ont intégré des gamines qui jouent d'habitude en moins de 17. Je pense notamment à la petite Audibert qui est la révélation, on va dire, de la saison, puisque elle a enquillé 3 ou 4 fois et à chaque fois le tourne à 5 buts de moyenne, cette gamine. En plus, c'est une petite Bédarides, donc cocorico.
Ouais, j'ai eu la chance de les rencontrer et c'est vrai qu'elles sont assez exceptionnelles. Donc Mazan, quand même, pointe à la 5e place avec 30 points. Ajaccio est premier avec 37 points, mais quand même Val d'Argens, deuxième, 32 points. Et Lagarde et Beauvallon, 31 et 30 points. Donc vraiment, dans un mouchoir de poche, on va dire les quatre suivantes.
Là aussi, belle surprise, cette équipe de Mazan, parce que l'objectif était de pas trop morfler et d'éviter la descente. Et bien, non seulement elles vont éviter la descente, mais la qualif est à portée de main maintenant.
Oui, c'est vrai qu'elles sont bien, 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 bien placées. On va parler rugby maintenant, avec la fédérale 1 poule 4, Mâcon Bédarrid 32-23 et Bourgoin-Bonne 27-15.
Ouais, Bédarrid qui avait remplacé en début de saison, en début de semaine, ses deux entraîneurs, Jarry Russell et Boileau, avait été remercié par le président Bellucci, remplacé par Dinoya, un ancien de la maison Bédarridaise qui a joué à Béda et qui a aussi entraîné. Il y a Laborde aussi qui jusqu'à maintenant avait en charge les espoirs. On leur a confié les clés de l'équipe avec la mission de se maintenir. Donc pour le moment, eh ben,
ils sont quand même 10e sur 12e. Alors, ils ont un match de retard.
Avec un match de retard contre le dernier, contre Grasse. Ce match qui devrait normalement être une formalité, qui devrait leur permettre de se sauver. Mais voilà, les deux nouveaux entraîneurs, Dinoya et Laborde, ont pour mission de maintenir l'équipe. Ils vont probablement y arriver. En tout cas, ils sont là pour insuffler un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de... On ne va pas changer maintenant la façon de jouer, c'est trop tard. Mais,
au moins de se maintenir.
Mais en tout cas, il faut absolument se maintenir et c'est la mission qui a été confiée aux deux entraîneurs. On essaiera de les avoir... Je n'ai pas eu le temps de voir Dinoya là, cette semaine, mais on essaiera de l'appeler la semaine prochaine pour qu'il essaie de nous raconter un petit peu...
Mais pourquoi pas les inviter aussi ?
Ou pourquoi pas les inviter, bien sûr.
Tout simplement. Voilà. Allez, je continue avec la Fédérale 2, poule 4, Château-Renard, Saint-Raphaël, Fréjus, 22-16. Là, Château-Renard, bon, tranquille, premier au classement général, 61 points. Très loin derrière Saint-Raphaël, 51 points, donc rien à relire.
Ouais, ça va le faire. Château qui avait connu un début de saison un petit peu compliqué. Ouais. Ils avaient joué beaucoup de matchs à l'extérieur. C'était un petit peu tendu, même dans le groupe, il commençait à y avoir des tensions, et puis finalement, ça s'est bien repris. Il y a eu un événement, alors ça vaut ce que ça vaut, mais le décès de l'entraîneur emblématique de Château, Daniel Saubier, qui a probablement remis un petit coup de gaz à cette équipe, et depuis, j'espère que c'est pas lié, mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de relation entre les deux faits. Mais depuis, Château enchaîne les victoires, et maintenant,
et
ben.
Et pourquoi pas un cadeau, justement?
Ben écoute,
offrir cette victoire de champion.
Ouais, alors ça va être compliqué, hein, parce que.
Ils ont quand même, ils ont 10 points d'avance.
La poule 4 de Fédéral 2, c'est pas la poule la plus compliquée du championnat de France. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est après le mauvais début de saison, d'arriver
à se reprendre
et à être constant maintenant, en tête du championnat.
On continue en Fédéral 3, en poule 6, Monteux-Sifour, 21-17. Enfin une victoire de Monteux, on va dire.
Ouais, victoire qui fait du bien, parce que ça permet aux Montiliennes d'assurer leur place en Fédéral 3 la saison prochaine. Sous réserve qu'il n'y ait pas de problème financier, parce que
on en avait parlé en début de saison.
Ça bruisse un peu en coulisses, là. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de problème financier, on sait que l'histoire de l'URSSAF a été réglée grâce à l'aide d'autres clubs, et notamment de Béda. Mais il y a d'autres problèmes à Monteux. Le président est démissionnaire.
Pour la saison prochaine.
En tout cas, les joueurs ont fait le job. Les joueurs ont fait le job. Ils n'étaient pas dans des conditions particulièrement faciles, hein, puisqu'ils ont dû, pour certains, sacrifier leurs primes et pas mal de choses pour maintenir l'équipe en Fédéral 3 saison prochaine. Voilà, maintenant, il y a 6 mois pour reconstruire un groupe, pour reconstruire un état d'esprit. Et puis, pourquoi pas, on verra bien. Mais en tout cas, cette victoire fait beaucoup, beaucoup de bien.
Il y avait un autre match aussi en Fédéral 3. Il y avait Avignon-le-Pontet recevait Martigues 54-3. Donc, une victoire écrasante, on va dire.
Ouais, j'y étais. Alors, Martigues qui descend de Fédéral 2, ils jouaient la saison dernière en Fédéral 2. Ils ont d'énormes difficultés, pareil. Mais Avignon a fait un énorme boulot. Alors, j'y suis allé hier voir ce match parce que les deux entraîneurs d'Avignon-le-Pontet sont deux anciens Bédaridés, Mika Mabillon et Ludo Zanini. Et je suis allé, je me suis régalé. On a vu du beau rugby, on a vu des choses super intéressantes. Le Pontet n'est pas à la place qu'il devrait occuper.
Il est 8e au classement général.
Ouais. Alors,
avec un match de retard aussi.
La vraie place du Pontet, pour moi, c'est 6e, mais ils sont passés à côté de quelques points relativement faciles, notamment la semaine dernière à Aubagne, où ils avaient le match en main et puis ils explosent à la fin. En tout cas, Mika Mabillon et Ludo Zanini font un boulot monstrueux, et puis ils ont réussi à créer pareil, avec un groupe quasi renouvelé à 80%, et ben, ils ont réussi à recréer un esprit, recréer un collectif. Et puis c'est sympa à voir jouer. Voilà, je me suis éclaté hier.
Ah bah, super. Et on va finir avec le rugby à 13, championnat de France Elite 2. Entraigue Bao 24-33, Ferrals Carpentras 18-28. Au classement général, Bao est premier, Carpentras deuxième, Entraigue septième avec 21 points, donc assez loin hein, des deuxièmes et des premiers. Donc voilà.
Ouais, compliqué pour Entraigue qui aurait pu faire le coup samedi après-midi. Là aussi encore, j'y étais, j'ai passé mon week-end sur les stades ce week-end, je me suis régalé. Mais Entraigue qui avait le match en main, on promettait aux Entraigois la foudre et le reste. Et puis finalement, ils ont fait un énorme match, super sérieux, très appliqué avec les coachs d'Entraigue qui avaient mis des tactiques vraiment, vraiment au point, qui avaient bien préparé le groupe. Pareil, le problème d'Entraigue, c'est le banc. Il n'y a pas énormément de remplaçants. Il y a quelques blessés, il y a un ou deux suspendus. Et tout ça pour dire que ce groupe, malgré tout, a réussi à faire face à Bao. Quelques décisions d'arbitrage un petit peu litigieuses qui font tourner le match au moment où il ne fallait pas. Et puis voilà. Mais en tout cas, les entraîneurs, et notamment Julien Scaramuza, avec qui je discutais à la fin, étaient contents de la prestation de ces mecs parce qu'il va pouvoir construire sur ce genre de match, même si c'est une défaite. C'est une défaite encourageante, en tout cas.
Mais tant mieux. Voilà. Alors on va peut-être te présenter, je sais pas, Monsieur Davo.
On va parler, présenter
notre ami Roland que l'on
Roland
connaît.
Roland Davo qui est venu il n'y a pas très longtemps. J'étais pas là. Je suis enchanté de faire sa connaissance. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Roland, juste en deux mots avant que Max Pala nous appelle, s'il nous écoute, les fonctions. Qui est Roland Davo pour les gens qui écoutaient pas la première émission et pour moi aussi d'ailleurs.
Non, je suis un invité régulier
un
de
VIP.
L'émission. Non. Déjà, comme tous les auditeurs et les personnes autour de la table, je suis un amoureux du sport. Il s'avère que l'engagement m'a permis de prendre un certain nombre de fonctions et depuis maintenant 2 ans, je suis le président du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Donc le comité olympique et sportif, je rajoute bien sportif, hein, c'est bien sûr les disciplines olympiques, mais c'est 54 disciplines différentes, 1600 clubs sportifs, 175 000 licenciés en Vaucluse. C'est la plus grosse force associative du département.
D'accord. La mission, en deux mots, du comité olympique et sportif.
Donc la mission principale, c'est représenter le mouvement sportif. C'est que je ne suis pas là pour gérer, vous l'avez dit, les championnats de chaque discipline, mais que sur tout un tas de sujets, l'instance qui représente l'ensemble des disciplines, c'est l'instance olympique et sportive. Donc je suis là pour à la fois animer sur des grands sujets de société, et c'est moi qui siège pour représenter le sport vauclusien dans toutes les différentes instances départementales, régionales et nationales.
Alors, l'amoureux de sport et l'éducateur que je suis est très intéressé par ça. On va laisser passer une petite page musicale et puis on reviendra là-dessus juste après.
Big Flo et Oli, tu connais, non ?
Petit biscuit !
Tout le monde me dit, tu sais ? Pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi. Tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses.
Ne pense plus à rien, rien. Cette
climat dit. T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que
c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses,
ne pense plus à rien, 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 rien.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, de retour en direct ici au studio à Carpentras avec un invité au téléphone, Max Pala, le directeur sportif, c'est ça, de Carpentras 13. Bonsoir Max.
Oui, bonsoir, c'est l'équipe.
Max, d'abord, écoute, félicitations pour cette superbe victoire hier.
Allez, merci pour l'équipe, pour le club.
Ça a été un petit peu compliqué, non ? Mais vous avez quand même réussi à le faire. On sait que c'est jamais facile d'aller s'imposer dans ces quartiers hostiles là dans l'Aude.
Exactement. Ouais, c'est la première fois qu'on s'impose en plus à Ferrals, puisque les deux derniers matchs chez eux, les deux dernières saisons, on s'est soldé à chaque fois des défaites assez étriquées à 2 points, 2-3 points. Donc là, on est d'autant plus contents. Et puis surtout, c'est qu'on les laisse derrière nous, quoi, parce que c'est des équipes qui jouent la qualification et qui peuvent être susceptibles de se retrouver sur notre chemin d'ici quelques mois en phase finale. Donc c'est toujours bien de venir s'imposer chez eux, quoi. Prendre les points là-bas, ça coûte cher. Donc là, ouais, on est soulagé ce soir, très satisfait de ce résultat super positif pour les points, pour le moral de tous. Donc voilà, ça redonne un peu de l'oxygène pour attaquer les prochaines échéances.
Max, est-ce que c'est pas le match référence là que vous attendiez un petit peu, parce que il y a un petit moment que ça tourne autour, il y a des bons matchs, il y a des matchs qui sont plus ou moins aboutis, mais pas complètement. Il y a un tas de il y a toujours quelques petits graines qui viennent se foutre là au milieu.
Il se passe toujours quelque chose avec Carpentras, ça c'est certain.
On va y revenir, t'inquiète pas. Mais...
le public qui voit nos matchs ne peut que se régaler, parce que c'est toujours. C'est vrai qu'on a des victoires à chaque fois qui sont quand même étriquées. On ne met pas des gros points d'écart aux équipes que nous jouons. Ça se joue toujours à quelque chose de. Voilà, un petit grain de sable, mais non, c'est qu'on a surtout une grosse force mentale, et c'est là la clé cette année, je pense. Donc voilà, on avance chaque match, et c'est un nouveau match, et puis il n'y a pas de petite équipe, hein, tu le sais. Donc,
ouais, je sais bien que dans cette poule, on l'a vu ensemble, hein, samedi après-midi, on a vu Entraigues qui est capable d'accrocher jusqu'à la fin cette équipe de Bao.
Le leader.
Ouais, dans lequel évolue un certain Pala aussi. Mais effectivement, il n'y a pas de petites équipes. Du coup, on en parlait avec Jérôme la dernière fois, mais le fait de jouer beaucoup sur ce mental, le mental carpentracien, des fois ça vous amène à faire des non-matchs.
Ouais.
Et à contrario, d'aller choper des superbes victoires à l'extérieur.
Ouais, mais c'est sûr, c'est que voilà, on puise toujours dans nos ressources. Mais moi, je veux vraiment lever mon chapeau là, à l'équipe, hein, aux 17 guerriers qui ont joué hier, parce que toute la semaine, ça a été quoi, depuis 15 jours, depuis la défaite à Villegenk de 40 points. Ça a remis pas mal de choses en question, et on a passé 15 jours quand même un peu à traverser les déserts aux entraînements. Donc c'est d'autant plus positif et d'autant plus rassurant quand même. Malgré tout, c'est vrai qu'on se dit on va tomber à chaque fois, on se dit avec les coachs ça va être dur ce week-end, on n'a pas l'équipe. Mais ils se sortent toujours de situations qui paraissent compliquées et puis ils arrivent à en faire quelque chose de totalement fou parce que hier c'était vraiment un super match. Ouais, c'est la référence, je pense, à l'extérieur.
Comment vous faites pour passer de pour arriver à passer par-dessus ce non-match là contre Villegayenc où vous avez chargé quand même. On avait même eu Jérôme au téléphone là qui était pas abattu mais en tout cas qui avait pris un éclat. Et puis finalement, en 15 jours, vous arrivez à remettre le groupe d'aplomb et aller choper cette victoire-là en terre audoise.
C'est vraiment les joueurs. C'est vrai, il faudrait poser la question aux joueurs. Il y a une force. Je pense que la clé, c'est que c'est la famille. Voilà, c'est le club aujourd'hui. Ça, on représente vraiment les valeurs du rugby à 13 et puis du club de Carpentras. C'est qu'on est tous ensemble, dans la difficulté, on arrive à ressortir toujours du positif, parce que c'est comme dans une famille, hein, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais au final, il y a toujours cette chose qui arrive au-dessus de tout, et ils arrivent à se retrouver sur le terrain, ils sont liés, et puis voilà, ils se connaissent aussi, parce que ça fait quelques saisons qu'ils enchaînent ensemble, donc il y a de la maturité, il y a de la jeunesse.
Est-ce que c'est parce qu'il manquait, et est-ce que c'est pas pour ça que tu es allé chercher Jérôme Alonso et Gaël Talek, justement pour verrouiller ça, parce qu'on
en rigole tous les jours quand on discute, parce qu'eux, ils sont un peu effarés de se dire, finalement, ils savaient pas trop où ils mettaient les pieds en début de saison. Et puis ils apprennent quoi. Jérôme connaît bien la maison Carpentrasienne, mais oui. Gaël, lui, est quand même un novice. Et Gaël, il fait tous les dimanches, il fait des gros yeux un peu bailli parce qu'il s'est dit c'est pas possible. S'ils étaient tous là tous les mardis, jeudis, chaque fois une équipe complète, etc., on pourrait travailler plus, etc. Mais il se rend compte que même des fois, voilà, en ayant passé un entraînement à 8 joueurs, ben, ils arrivent à gagner quand même, quoi. Donc c'est cette force qu'ils ont, voilà, et qui, j'espère, nous mènera le plus loin possible, quoi.
Du coup, c'était la question qui est arrivée. Bravo Max. Vous êtes second ce soir au classement.
C'est selon le classement. Pour nous, on est troisième. Voilà, ce soir, on est troisième derrière Villegayenc. Après,
plus que jamais dans la course à la qualif.
On est dans la course à la qualif. On reçoit Salon dimanche. Donc voilà, il va falloir enchaîner, prendre des points.
Le match pourri à venir. Ouais.
La ligne de mire, c'est Villefranche-de-Rouergue le 3 mars à la Roseraie, qui là va vraiment être le tournant de finir cette troisième place. Quoi, parce que est-ce qu'on peut aller chercher la seconde? Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, si on peut la prendre, on ira la chercher. Mais essayer d'assurer au moins cette troisième place pour jouer un quart de finale à la maison. On va y aller prudemment cette année. On va pas faire de... Voilà, bien sûr, on rêve d'une demi-finale. Hein. Ça, c'est certain.
Le fait d'avoir été sorti des deux coupes, là, c'est peut-être aussi un bien. Hein, ça vous permet de vous concentrer.
On joue la coupe. On joue la coupe toujours, Coupe de France.
Pardon.
On va à Lyon-Villeurbanne en coupe.
Ouais, c'est possible encore là, sur le coup.
La coupe, ben voilà, on ira faire notre match. Si on parle sincèrement, non, c'est jouer les deux tableaux, ça va être compliqué quand même.
Oui, à un moment, il va falloir faire un choix.
Le choix, on en parle avec les coachs, c'est le championnat, ça, c'est certain. La coupe, on ira jouer notre match crânement parce que voilà, on allait faire les matchs qu'il faut faire. Mais envisager une grosse cylindrée d'élite 1 à la maison et essayer de finir le mieux possible en championnat, c'est compliqué quand même.
Écoute, Max,
l'effectif assez long, quoi.
On va te laisser. On discutait tout à l'heure hors antenne avec Valérie et on se disait qu'on allait venir faire un match en direct à la Roseraie. Pourquoi pas celui du 3 mars d'ailleurs.
Ouais. Ce serait pas mal celui-là.
Ouais, ouais. Écoute,
j'espère que les Carpentrassiens répondront en présent et venir en nombre à supporter l'équipe.
On va caler ça et puis on te tiendra au courant. En tout cas, on reviendra vers toi très, très vite pour te le confirmer.
Merci beaucoup, passez une bonne soirée et puis à très bientôt.
Salut Max, merci.
Merci, au revoir.
Ben voilà, on revient au studio après cet échange avec Max. On va repasser une petite page musicale et puis
on revient.
On reviendra avec Roland Davo.
The same, girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Sur RTVFM.
Allez, de retour ici au studio avec Valérie, puis toujours notre invité Roland Davo, le président du comité olympique et sportif de Vaucluse, avec qui on va évoquer plusieurs sujets. On va évoquer le trophée des sports qui a eu lieu à Mazan il y a 15 jours, me semble-t-il, pas tout à fait 15 jours.
Absolument.
On va aussi évoquer la soirée des sportifs de Carpentras qui aura lieu le 29 mars. Et puis on va aussi parler de handisport parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis si on a le temps, on évoquera les problèmes de bénévolat, d'associations, etc. Et puis je crois qu'il y a une refonte du système qui est en cours, me semble-t-il.
Avec la création de l'Agence nationale du sport.
Voilà, on essaiera d'y revenir, même si ça a été un petit peu évoqué il y a quelques temps. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'y revenir. On va parler du trophée des sports qui a eu lieu à Mazan, à la salle de la Boiserie, il y a 10 jours maintenant, 15 jours. Ça a été plutôt un succès, cette soirée, qui ont été récompensés.
Remise de ballon, c'est pas ça?
Absolument pas.
Non. C'était la soirée des lauréats du sport. Le SOA qui a été primé pour le titre de champion de France d'élite 1. L'SBC pour le titre de fédéral 2 en rugby à 15. Il y a eu du BMX, me semble-t-il, aussi, avec André.
J'enchaîne.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Le principe, c'était la semaine des paillettes. C'est qu'à la fois, le mercredi, on avait ces trophées des sports vauclusiens. Donc, c'est la soirée départementale qui honore le sport départemental. Il y a eu 25 prix remis sur différentes catégories. La catégorie qui m'est chère, c'est handicap dépassement de soi, où on a remis 2 prix à Jean-Marie Bressy pour son activité au hand-fauteuil de Mazan. Et Jocelyn Dalmo, qui est le président le plus jeune de France handisport, qui a parfois besoin d'être accompagné. On a souhaité, avec le département de Vaucluse, conjointement, honorer le sport, mais dans sa diversité. C'est-à-dire que le sport, c'est les sportifs, mais c'est aussi les dirigeants, c'est aussi les arbitres, ce sont aussi les éducateurs, les entraîneurs. Donc il y a des prix sur toutes ces catégories-là. On souhaite aussi honorer l'innovation. Et cette année, on a souhaité mettre en avant une initiative du championnat de France de badminton handisport qui a eu lieu à Pertuis, mais qui a été particulièrement original puisque à côté de l'ensemble des activités qui étaient déjà, j'y suis allé, c'était extraordinaire, mais ils ont sensibilisé pendant une dizaine de jours l'ensemble des écoles du territoire à la pratique du badminton en fauteuil. Donc il y a eu à la fois le sportif, mais aussi ça a marqué le territoire de Pertuis, et je crois que quand le sport s'engage à ce niveau-là, alors, comme tout passionné, je trouve que le sport est grand, mais quand il va aussi éduquer les enfants à travers ces sujets-là, c'est vraiment génial.
On a le handisport, là, on va en parler longuement parce que ça te tient à cœur et ça me tient à cœur aussi, mais à travers Jean-Marie Bressy, qui fait vraiment un boulot monstrueux du côté de Mazan, mais on voit aussi d'autres sportifs qui vraiment élève le niveau, on le disait hors antenne, mais jusqu'à maintenant on allait presque voir, allez, parlons trivialement, mais spectacle, on voyait des mecs qui allaient faire, qui n'étaient pas tout à fait comme nous, qui allaient faire du sport, on regardait ça avec un œil un petit peu bizarroïde, et maintenant quand on va voir du hand-fauteuil ou du rugby à 13 fauteuils, ce qui est mon cas, on voit vraiment des mecs qui s'y filent, des vrais sportifs, c'est plus un spectacle.
C'est plus exclusivement les gens concernés par la cause du handicap, mais aujourd'hui, les amoureux de sport prennent plaisir à voir de l'handisport. Et je l'ai déjà dit, mais si on se rappelle les Jeux de Rio, l'épreuve du 1500 mètres, l'épreuve handi est allée plus vite que le 1500 mètres valide. Alors, parce que le 1500 mètres a été particulièrement tactique et lent, mais pour montrer le niveau de performance aussi. Quand le niveau de performance des sportifs handisport est équivalent, voire parfois supérieur, quand on se pose la question, est-ce qu'une attelle en carbone, c'est un avantage par rapport d'avoir ses vraies jambes? Alors, c'est des vrais débats, hein. Il faut que l'éthique et l'équité sportive soient assurées.
Oui, il y avait ce Sudaf là qui avait... Ouais. D'ailleurs,
qui s'est égaré.
Qui s'est un petit peu égaré par la suite.
Il a juste assassiné son épouse.
Plus qu'égaré, c'est vrai.
Mais oui, il avait...
On se posait la question si c'était équitable qu'il concourt avec les valides, parce que notamment sur le 400 mètres, où la montée en acide lactique sur les derniers mètres est très forte, c'est comment on lutte contre la douleur sur les derniers mètres, mais étant donné qu'il n'avait pas de jambes, il n'avait plus cette montée en acide, et on voyait qu'il revenait fort sur la fin de l'épreuve.
Au-delà de ça, on sans aller jusqu'à ces niveaux-là des jeux olympiques, mais quand on voit tous les week-ends des valides qui n'hésitent pas à venir pratiquer du sport handi, notamment au hand par exemple, où on voit des sportifs accomplis. J'ai en tête Bruce Caudron qui est multiple champion du monde de boxe pied-point, qui n'hésite pas à venir s'asseoir dans un fauteuil pour participer à des rencontres de hand-fauteuil. On voit aussi du côté du SOA 13 fauteuil des gens qui n'hésitent pas à venir s'asseoir dans un fauteuil pour pratiquer avec leurs enfants, avec leur famille et au-delà de ça, juste pour se dépasser, pour continuer à se dépasser. Ça donne souvent des vraies leçons et on ne saurait que trop engager les gens qui ne connaissent pas ces sports-là à aller voir et pas hésiter à pratiquer.
C'est ça, et pour faire écho à un appel, puisque il y a quelques jours, on était à 2024 jours de l'ouverture des Jeux paralympiques, et que la France, on est en train de lancer un grand programme de détection sur le handisport pour préparer les futurs athlètes, et que quand on est touché par un handicap, envisager déjà de pratiquer le sport, envisager de continuer la vie, c'est pas facile, mais encore de faire du sport, on s'imagine que c'est pas possible. Donc notre objectif, l'instance olympique et sportive, c'est de faire tomber ces barrières, de dire mais c'est possible. Il y a toute une adaptation du matériel, une adaptation, et que la vie elle ne s'arrête pas quand on a une maladie, quand on a un accident de la vie. On peut continuer et le sport en est la parfaite incarnation, on peut continuer et on le voit. Hein, j'ai un exemple, un nageur, la Théo, il n'a pas de bras et pas de jambes et pourtant il nage. Je crois qu'il a fait quelques médailles aux derniers Jeux paralympiques. Mais la vie peut continuer et c'est pas simple, faut pas être angélique, mais voilà, on est en train de monter on doit être ambitieux sur les 80 médailles pour les Jeux Olympiques, mais on doit être aussi très ambitieux sur les Jeux Paralympiques et on a mis en place un grand programme de détection.
Comment vous faites, vous, quel est votre rôle, quel est votre apport au sein du comité olympique et sportif de Vaucluse pour aller détecter ces mecs-là? Comment vous faites pour aller détecter ces futurs représentants aux Jeux paralympiques? Parce que, excuse-moi Roland, mais c'est en général c'est une démarche, on va dire une démarche personnelle. C'est pas facile pour un sportif ou même pour quelqu'un lambda d'aller se dire eh ben je vais devenir, tu l'as dit, un sportif malgré le fait que j'ai chargé, malgré le fait que j'ai perdu mes jambes, malgré comment vous intervenez, vous comment vous le quel ressort vous avez au sein de...
Alors, avec mon équipe, on a travaillé sur deux axes. Déjà aller vers les centres de rééducation. On a un accident de la route, c'est malheureux, on a une amputation totale ou partielle. Eh ben, il existe des moyens techniques et comment, pendant la rééducation, on reprend de l'activité physique et prendre le pas pour faire le lien avec les structures fédérales pour s'inscrire après dans un club. Et ensuite, j'ai rassemblé, dans le cadre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, les 80 associations représentant les personnes handicapées du département pour leur parler à la fois des loisirs, de l'activité physique, voire du sport et de la compétition. Je crois qu'il y a tout ça. Hein, pour avoir des champions, il faut aussi avoir de la pratique de loisirs et de la pratique de début de compétition. Donc on va vers ce champ pour dire, venez, il existe des clubs qui peuvent vous accueillir. Donc c'est un travail. Avant d'être à la présidence olympique, j'étais déjà élu olympique, mais chargé de la question du handicap. Donc j'avais pendant 4 ans travaillé beaucoup avec les structures, avec les clubs pour faciliter à la fois l'accessibilité dans les équipements. Il faut qu'on travaille avec les communes du Vaucluse parce que développer de l'activité, avoir quelqu'un d'encadré, de formé dans un équipement où on ne peut pas accéder parce qu'il manque une rampe, parce que les toilettes n'ont pas été... Donc il faut qu'on travaille dans la responsabilité avec les communes de Vaucluse. C'est pour ça qu'on a un travail de partenariat fort avec l'association des maires de Vaucluse sur ces questions-là.
Et là, ça a été lancé. Est-ce que vous commencez à avoir des résultats? Est-ce que ou c'est trop tôt dans cette action-là pour se dire
c'est vraiment
c'est
tôt,
beaucoup trop tôt.
C'est vraiment une grosse machine parce qu'on a la volonté, mais il faut réussir à convaincre. Donc il faut aussi aider à la structuration du comité de sport adapté sur le handicap mental, le comité handisport et l'ensemble des disciplines. Il faut accompagner, on commence. Il faut trouver aussi des dirigeants, former les éducateurs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer. Il faut réussir à convaincre, mais j'espère que vous sentez mon militantisme sur ces questions. Et je pense que la passion est contagieuse. Donc je pense qu'on va avoir des médaillés olympiques valides et handisport aux Jeux de Paris. C'est vrai que je ne veux pas écarter Tokyo, qui sera l'année prochaine, mais on est tous obsédés dans le monde sportif par les Jeux de Paris. Ça va être une fête extraordinaire.
Moi, je voulais juste revenir sur le côté, la pratique des sports handi. Quand on prend les gymnases, on a, je pense, dans le Vaucluse, pas mal de vieux gymnases. Donc, les mettre au goût du jour, on va dire, pour les handicapés, enfin, on ne va pas dire handicapés, personne atteint d'un handicap, hein, quel qu'il soit, c'est peut-être pas toujours évident non plus.
Je le dis souvent, il faut qu'on soit responsable. Parce que, hormis d'être dirigeant et passionné, on est tous aussi des contribuables. Donc, il y a la loi de 2005 avec l'obligation de rendre accessibles les équipements. Mais moi, comme beaucoup, ça me choque qu'on fasse des travaux dans des gymnases qui ne sont pas utilisés. Donc ma responsabilité, c'est de travailler avec les communes, pas pour leur donner la leçon. Parce que donner la leçon quand c'est les autres qui payent, je pense que ce n'est pas responsable. Donc il faut qu'on travaille avec eux pour leur dire, notre priorité d'équipement, c'est celui-ci. C'est celui-ci où on a déjà une équipe qui va se créer, parce qu'il faut qu'on donne du sens. Parce qu'un maire qui respecte la loi, c'est normal. Mais il a aussi ses administrés qui lui disent « Oui, mais vous avez fait un gymnase, une rampe, c'est jamais utilisé. » Il faut qu'en responsabilité, je vienne à leur côté pour développer de l'activité sur les équipements qui sont rendus accessibles. Parce qu'après, on ne se pose plus ce genre de questions. Mmh. Donc oui, il faut que tout soit accessible, mais on essaie de le faire par priorité. Il y a des équipements qui sont prioritaires pour nous. C'est vrai, mais c'est en Vaucluse, mais c'est en France partout qu'on a beaucoup d'équipements, mais des équipements qui sont vieillissants. Une piscine des années 70, la question de l'accessibilité, c'était pas notre souci. Non. C'est pas bien, mais rendre accessible, et quand ça coûte 50, 100 000 euros, c'est les impôts de tout le monde, donc il faut qu'on soit responsable. On a des communes qui veulent faire, mais je le redis, il faut qu'on développe de l'activité dans ces équipements pardon, qui sont accessibles pour donner du sens à l'effort collectif qui a été fait.
Mais justement... Cet effort, il est fait depuis quelques années, parce que j'entends parler de handicap, moi, depuis des décennies, quoi. On n'a jamais fait, je me rappelle, à Paris, voir des jeux paralympiques à Paris, dans les années 85, 86, 87, où on n'en parlait pas, c'était vraiment très, je veux dire...
confidentiel.
Oui, voilà, c'était presque... les gens atteints d'un handicap, il ne faut pas en parler, il faut les mettre de côté. Il n'y avait rien de fait pour eux, que ce soit dans les gymnases, dans les stades, rien. Et pourtant, ça existait déjà, les Jeux paralympiques.
On est tous concernés.
Non, je suis entièrement d'accord.
Parce que le handicap, on pense souvent au fauteuil, mais on peut tous aller au ski, et c'est un peu le moment, et revenir avec une jambe cassée. C'est là où on se rend compte des difficultés qu'on vit temporairement.
Voilà, une main dans le plâtre,
on le sait tous ne voit pas, et que c'est pas juste les personnes en fauteuil.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on en parle vraiment, on en parle depuis des décennies, mais vraiment, je pense qu'on prend le taureau par les cornes depuis même pas une petite décennie.
Oui, mais ça avance bien. Moi, je ne veux pas être dans la sinistrose.
Enfin.
Il y a beaucoup, beaucoup de très, très beaux projets. Vous en avez donné tout un tas et on est en train d'en préparer. On a créé la première équipe de basket fauteuil en Vaucluse sur Carpentras. Maintenant qu'il y en a une, il faudrait qu'il y en ait deux. Donc, on travaille avec l'instance fédérale du basket pour y aller. Il y a beaucoup de le frein, c'est aussi le matériel. C'est du matériel qui coûte cher. Donc le comité handisport a une dizaine de fauteuils qu'ils peuvent prêter pour essayer d'aider au développement. Voilà, ça travaille. Avec le département de Vaucluse, on est en train d'imaginer un grand projet pour que la question du handicap et du sport en Vaucluse soit peut-être un département exemplaire. On a un rêve avec les Jeux de Paris qui arrivent, c'est de pouvoir accueillir des sites d'entraînement à la fois, on pense au vélo. Je crois que les Vaucluviens ne se rendent pas compte à quel point notre Mont Ventoux, il a une notoriété internationale.
On était plutôt précurseur d'ailleurs sur le vélo avec Tristan Mouric il y a une vingtaine d'années où lui était vraiment le porte-drapeau, le porte-étendard même du cyclisme handy dans le monde. Enfin, on se rappelle des exploits qu'il a réalisés. Voilà, et on a l'impression que ce mec-là, entre lui et le discours que tu nous tiens aujourd'hui, il y a eu un grand vide.
Voilà, un grand passage à vide. C'est ce que j'ai dit. Alors, depuis des années.
C'est pas Roland Daveau qui est visé parce qu'on connaît ton engagement pour ces causes-là. Mais comment ça se fait que justement on n'ait pas réussi à surfer sur la vague Tristan Mouric? Moi, je me souviens que. À diverses reprises, il a été pris pour un illuminé, ce garçon, parce qu'il avait des projets, parce qu'il montait le Ventoux avec une prothèse, parce qu'il battait des records de vitesse. Et finalement, ça a été compliqué.
Je pense que c'est le décalage entre les précurseurs et après, dans un effet de masse plus important. Tristan, que je croise souvent, il est dans ses précurseurs, donc il a essuyé les plâtres. Il a rencontré encore plus de difficultés qu'aujourd'hui, mais c'est des exemples qui sont nécessaires aujourd'hui. Il a fait tomber beaucoup de barrières. Et arriver derrière, c'est plus facile. Et arriver derrière l'équipe qui est aujourd'hui, peut-être derrière moi, ça sera encore plus facile. Je crois que c'est notre mission. Je me sens d'une certaine façon héritier de Tristan pour pouvoir avancer. Il a fait une partie du travail, c'est à nous maintenant d'aller plus loin.
Et est-ce que c'est pas compliqué au quotidien, parce qu'on parlait de Tristan Mouric, mais par exemple, je vais te citer l'exemple de Florian Cazenave, qui est un rugbyman qui a perdu un œil. Quand on voit comment il a galéré, ce mec-là, pour pouvoir revenir jouer en France, pour pouvoir récupérer une licence, alors qu'il n'avait qu'un œil, il demandait simplement à ce qu'on lui rende sa licence de joueur pro. Il a été obligé de s'expatrier en Italie pendant 3 ou 4 ans, passer des dizaines et des dizaines de tests Enfin, ça a été super compliqué. Comment, des fois, ça doit être un petit peu usant, non ?
Alors, c'est un sujet que je connais peu et ce cas particulier, donc je ne veux pas dire vraiment de bêtises, mais la question de la sécurité des pratiquants, est-ce que continuer à jouer au rugby avec un œil, je ne connais pas suffisamment. Donc, je sais qu'il y a toute des procédures après des chocs, après tout ça, mais ne plus pouvoir pratiquer
descendre le Mont Ventoux avec une jambe valide et une prothèse, c'est aussi très dangereux.
Ouais.
Allez, on va passer à la pub et à la musique et on reviendra avec des sujets un petit peu plus légers.
Discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. Da-da-da.
Parlons Sport sur RTVFM.
Allez, de retour avec notre ami Roland Davo, avec qui on évoquait le sport paralympique et le sport handicapé, le handisport.
Handisport, oui.
Voilà. Et ben voilà, c'était super intéressant d'évoquer ces sujets avec lui. J'aimerais, Roland, qu'on revienne sur les trophées du sport qui ont eu lieu à Mazan. C'était une superbe soirée avec un tas de sportifs, un tas de remises, et puis ça a permis de mettre aussi le sport en évidence, pendant de braquer un petit peu les projecteurs sur le sport vauclusien pendant quelques temps. Parle-nous un petit peu de cette soirée, Roland.
Non, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'une collectivité qui investit dans le sport, c'est une collectivité qui gagne. C'est qu'investir dans le sport, c'est investir dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la santé, et que c'est vraiment un investissement. Pour moi, il est toujours insupportable de nous dire ce qu'on coûte sans, à côté, se rendre compte de ce qu'on rapporte à un territoire. Je ne veux pas imaginer un Vaucluse où il n'y aurait plus d'épreuves de course à pied tous les week-ends. Vous imaginez,
monde,
175 000 licenciés, plus de 260 000 pratiquants de sport, il y a plus d'un Vauclusien sur deux qui est touché par le sport. Alors, il faudrait qu'on aille plus loin encore et que quasiment tous les Vauclusiens puissent avoir de l'activité physique. Mais ça touche tous les Vauclusiens, l'activité physique. Et ça touche aussi l'économie. Quand on voit l'économie, notamment du vélo autour du Ventoux, que ça soit les chambres d'hôtes, il y a un nombre de magasins de vélo par rapport au nombre d'habitants à Bédouin qui est disproportionné. Et que le Mont Ventoux, c'est connu dans le monde entier. Et quand on a la chance d'avoir une étape du Tour de France, je dis bien la chance parce que oui, ça coûte, mais en termes d'image et les retombées sur plusieurs années, je crois qu'il faut s'en rendre compte. Et qu'une soirée des sportifs, que ça soit dans une commune ou dans un département ou une région, je serai toujours là pour les soutenir, parce que mettre en avant le sport, c'est, je le dis, croire en sa jeunesse et vouloir honorer. On a la chance d'avoir une star du sport. On en a plusieurs, mais je veux parler de Sylvain André. Il est champion du monde d'une discipline olympique. Il peut gagner les Jeux Olympiques à Tokyo. Et que quand on dit, oh, le Vaucluse, on n'est pas trop sportif, on est un département souvent école, mais on a des stars du sport. On a eu Jérémy Azou en aviron, champion olympique. On a vraiment des gens qui sont extraordinaires. Et qu'aussi mettre en avant les manifestations, c'est quelque chose d'important, parce que ça fait vivre le territoire. Un territoire qui n'a plus de théâtre, qui n'a plus de culture, mais qui n'a plus de sport où... Ben voilà, c'est de l'union et c'est de la vie. Je crois qu'on en a encore plus besoin que depuis certaines années. Il faut s'engager là-dedans. Et un territoire qui est riche en sport, que ça soit de haut niveau ou d'une pratique pour tous, c'est quelque chose de très très bon.
Alors, je suis d'accord à 200% avec toi. J'adhère à 200% à ce que tu dis. Et j'ai eu la chance de croiser Sylvain André dernièrement à Vélo Passion. Enfin... Et ces mecs-là font beaucoup. On parlait de Azou aussi, qui met un coup de projecteur sur l'aviron avignonnais, etc. Au-delà de ça, par moment, l'éducateur que je suis, moi, l'éducateur de moins de 12 dans un sport qui est populaire, hein, le rugby, se retrouve par contre tous les jours avec des difficultés de structure, des difficultés de budget, des difficultés... On est toujours... Alors c'est bien d'avoir des porte-drapeaux, et les porte-drapeaux sont issus de la base, clairement, et s'il n'y avait pas eu la base, il n'y aurait pas eu ces mecs-là. Mais au quotidien, pour les éducateurs, et je me fais le porte-parole des milliers d'éducateurs qu'il y a dans le Vaucluse, tout sport confondu, au quotidien, ben on galère, parce que on a la concurrence de la PlayStation, on a la concurrence. Et puis, quand malgré tout tu arrives à avoir des gamins, eh ben, il faut aménager des horaires parce que il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, etc., etc. Et pour arriver à sortir un Sylvain André, un Jérémy Azou, un Benoît Père, etc., eh ben, y a énormément d'efforts, il y a énormément de galères pour les éducateurs, les bénévoles qui... Par moment, eh ben, t'as l'impression que tes forces t'abandonnent, quoi. T'es toujours en train de te battre contre quelque chose.
La plus grande richesse du sport, c'est ses bénévoles. Ouais. Qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient éducateurs, parce qu'on a un certain nombre d'éducateurs qui sont professionnels, mais l'immense majorité de l'encadrement du sport en Vaucluse et en France, il est fait par des bénévoles.
Ouais, mais ces mecs-là, encore une fois, je peux t'en parler. Là aussi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais tu es toujours en train de galérer pour un truc, et puis tu souffres du manque de reconnaissance. Alors on ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça pour la reconnaissance. Ma gloriole, je l'ai déjà eue, je ne cherche pas à avoir de la gloriole au travers de mes gamins, mais on t'emmerde pour des licences, on t'emmerde pour des certificats médicaux, on t'emmerde. Toi, éducateur, on te fait passer des... Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de fluidifier tout ça par l'intermédiaire du... Enfin, je sais que ça ne vient pas de toi, et que c'est probablement pas ta structure qui permet ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dans les fédérations, dans le monde sportif français, d'aider un petit peu tous ces mecs-là, tous ces bénévoles, et surtout de rendre plus facile l'accès aux bénévolats dans les clubs?
Ce qui est certain, c'est qu'on est en train de vivre une révolution de notre organisation du sport en France. C'est que mon sentiment, c'est qu'on arrive, et tu l'as très bien décrit, à un système qui montre ses limites. Et qu'un système qui est bon, c'est un système qui évolue aussi avec les évolutions de la société. Aujourd'hui, on est dans un système qui est hérité des années 60-70. Ouais, et que la société, elle n'est plus la même. Il n'y avait pas la PlayStation dans les années 70.
À la limite, la pénurie de gamins, c'est de notre responsabilité d'aller chercher les gamins là où ils sont. Moi, je me bats au quotidien pour récupérer un gamin dans la rue, le copain de mon fils, le machin. Ça, c'est quelque part de notre responsabilité. Ce sur quoi tu as du mal à lutter, c'est que pour pouvoir passer 2 heures le mercredi bénévolement, c'est-à-dire que tu ne vas pas travailler pendant ce temps, tu ne vas pas voir ta femme pendant ce temps, etc. En plus de ça, on t'emmerde parce que tu n'as pas le bon diplôme, parce que tu n'as pas la bonne... je sais qu'il ne faut pas confier des gamins à n'importe qui, n'importe comment, mais entre le trop et le pas assez, j'ai passé mes premiers diplômes d'entraîneur, j'avais 16 ans. D'accord ? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'en demande 10 fois plus que lorsque j'avais 16 ans. Donc, ça fait 35 ans, c'est vieux, mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'être bénévole dans un club, et a fortiori bénévole, technicien bénévole, qu'il
y a 30 ans.
Il y a 30 ans, ou même 15 ans.
En tout cas, c'est une excellente contribution que, si tu me le permets, d'intégrer, puisque le mouvement sportif va organiser son grand débat le 6 mars à Baume de Venise, à 18h, pour aussi, à la demande de notre instance nationale, pour aussi remonter un certain nombre de réalités du terrain. Et la réalité des bénévoles, on nous parle depuis longtemps aussi de trimestres de retraite, parce que parfois, faire du bénévolat, ça nous enrichit dans le cœur, mais on fait parfois des choix de carrière en fonction de son engagement bénévole.
En tout cas, on fait des choix financiers.
C'est ça que je voulais dire.
Parce que moi, le mercredi après-midi, je travaille pas, quoi.
Pour avoir des trimestres, qu'on puisse avoir des trimestres de retraite et en valorisant son engagement associatif, ça a été des idées et des promesses qui ont été faites sur différents quinquennats. Mais c'est quelque chose, à mon avis, qui irait dans le bon sens pour... Parce que derrière chaque bénévole, il y a une famille, on le sait.
Ouais.
Hein, et que derrière, c'est des efforts sur les enfants, qu'on voit ses propres enfants moins. Hein,
le mien, je l'ai dans mon équipe, au moins comme ça, j'ai réglé ce problème-là. Mais...
Pour l'instant, mais...
mais c'est vrai que c'est galère. Alors, encore une fois, je me fais le porte-parole des milliers de bénévoles qui sont dans le Vaucluse, mais on n'est pas tous rétribués. Et moi, je ne me sens pas le droit de demander une rétribution pour exercer ma passion. Mais en même temps, des fois, tu aimerais qu'on t'emmerde un peu moins. T'aimerais pas être obligé d'aller te taper 18 séances, 18 soirs dans l'année pour aller te former sur des trucs que tu maîtrises déjà. Ou t'aimerais qu'on t'emmerde pas parce que t'as pas le bon brassard. Enfin, c'est des conneries, hein. Mais au quotidien, ça te pourrit la vie. Sans compter que t'as pas les bons terrains, sans compter que... Voilà, c'est... Les Sylvain André, Jérémy Azou, Benoît Père, et on pourrait en citer des centaines, quelque part, moi, j'ai toujours l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ces mecs-là, ils sortent de la base, ils sont arrivés, tant mieux. Et quelque part, s'ils sont là, c'est grâce aux bénévoles. Mais les bénévoles, ils sont en train de s'essouffler un petit peu et de s'user beaucoup.
Là où il y a une contradiction, c'est que c'est une vraie analyse. À la fois, il n'y a jamais eu autant d'associations. Sauf que moi, je suis bénévole dans 6 associations. Mmh. Et j'en préside 3. C'est que il y a beaucoup d'associations, mais c'est toujours les mêmes qui président. Bien avec sûr. Une moyenne d'âge, j'ai un miroir. Je vois que je ne fais plus partie des tout jeunes. Pas encore des tout vieux, mais et qu'il y a un vieillissement de l'engagement. Et à ce titre, je peux vous dire qu'on va créer l'Académie des bénévoles au niveau du Comité Olympique Régional, parce qu'il y a 2 régions qui sont concernées par les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est Paris, bien sûr, mais c'est aussi notre région sud,
la voile.
Avec la voile et le football. Et qu'on ne veut pas que l'ensemble des bénévoles qui sont tous les jours, depuis des années dans les clubs, ne soient pas de la fête pour les Jeux Olympiques et qu'on fasse peut-être appel à des privés. Alors, sur la partie sportive, les fédérations internationales sont parées, mais on va accueillir le monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que les Jeux Olympiques. C'est 30 fois une exposition universelle, même par rapport à une Coupe du Monde. On va accueillir le monde, ça va être quelque chose d'énorme. Et donc, on va créer pour préparer nos bénévoles à l'accueil du monde, pour aussi être... on était avec le comité d'organisation. Si je reviens à la soirée des trophées des sports, vous dire qu'on a eu 3 témoignages qui ont énormément touché le monde sportif vauclusien. C'est Tony Estanguet, le président de des comités d'organisation des Jeux, qui nous a fait une petite vidéo. Il y a Bernard Laporte, qui était là il y a quelques semaines, qui nous a fait un petit coucou, et ça a énormément touché les bénévoles. Et on a Denis Massiglia, qui est le président du sport français, qui nous a fait aussi... Donc on avait 3 grands noms du sport français qui ont voulu dire un témoignage de sympathie aux sportifs et à l'ensemble des bénévoles du département. Et je sais que ça a beaucoup, beaucoup plu. Voilà, mais il faut, et on a vraiment cette réflexion sur la valorisation du bénévolat et sur son statut. Trop de responsabilités. Aujourd'hui, quand on voit la responsabilité des dirigeants des associations, c'est pas possible. On peut pas jouer.
C'est usant.
On peut pas jouer ses biens personnels. C'est pas possible. C'est un frein. Ma femme, elle m'écoute. Hein. Elle sait pas les responsabilités que j'ai. Je préside un centre pour personnes handicapées, 5 millions d'euros de budget par an. Je gagne pas, moi, 5 000. Et je suis totalement bénévole. Il y a aujourd'hui des structures associatives qui gèrent des petits budgets, mais on a des établissements, des hôpitaux qui sont des associations et ce sont des bénévoles derrière, avec des responsabilités très, très, très importantes. Donc, on prend des responsabilités, mais il faut aussi qu'on nous protège un tout petit peu, parce qu'on peut se tromper, comme on se lève pas le matin en se disant quelle bêtise je vais faire ce matin, mais avoir la lucidité. Alors c'est rare que les sportifs on cite des politiques, mais je me rappelle d'une citation de Theodore Roosevelt. Et il disait la meilleure chose dans des situations compliquées, c'est de prendre la bonne décision. Après on prend la mauvaise, mais le pire c'est de pas en prendre. Et je pense que c'est quelque chose moi qui m'anime vraiment, c'est qu'à un moment donné il faut faire des choix. On peut rester dans nos bureaux, couper des rubans, remettre des médailles, je le fais aussi, mais faire que de la représentation, aller au devant pour tenter d'améliorer les choses. Aujourd'hui quand je dois prendre une décision, en général j'en ai la moitié qui applaudissent, la moitié qui sont pas contents, mais pourtant je prendrai des décisions.
On va revenir, excuse-moi pour la partie bénévole là, on va définitivement parler des trophées des sports, puisque ça faisait aussi partie de ça, hein, puisque tu as parlé des bénévoles qui étaient là ce soir-là, mais ce trophée des sports c'est quand même au-delà des problématiques qu'on rencontre tous les jours, c'est quand même une belle vitrine pour le sport vauclusien.
C'est exactement ça. Et une des nouveautés cette année, c'est qu'on a eu le prix spécial du public. C'est qu'on a permis, avec un de nos partenaires qui est Vaucluse Matin, parce que le jury des trophées des sports vauclusiens, c'est le département de Vaucluse, l'instance olympique et la Provence et Vaucluse Matin. Et donc là, cette fois-ci, le public a pu voter sur une application qui était sur le site du département de Vaucluse. On a eu plus de 2000 votants et c'est Sylvain André. Donc les 6 nommés ont été choisis par les journalistes en fonction du nombre de retours qu'ils avaient. Alors je ne veux pas en oublier, mais je sais qu'il y avait le motoball de Carpentras, Grégory Coulet, l'homme le plus fort de France. J'étais au championnat de France il y a quelques jours à Monteux.
On les avait reçus il y a quelques temps.
Voilà, il y avait le rugby à 15 de Bédaride, le 13 d'Avignon, Sylvain André. Je crois que je suis à 5 et je crois qu'il y a le pilote de Sarian aussi, champion du monde junior.
Bernardi.
Léo. Et donc c'est Sylvain André qui a incontestablement rempli le plus de votes. mais cette, que ça soit aussi interactif, ça soit pas que les experts qui aient voté, mais que aussi le grand public puisse donner son avis. C'est une nouveauté cette année, ça, ça me semble aussi très intéressant.
Qu'est-ce que ça apporte au sport vauclusien cette soirée, à part le gros coup de projecteur qui dure, on va dire, une semaine avant, on en parle beaucoup dans la presse, une semaine avant, on en parle quelques jours après. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ça peut permettre, par exemple, aux sportifs de dire, vous avez vu, on a parlé de nous pendant quelques temps. Concrètement, ça apporte quoi, à part le coup de projecteur qui est déjà pas mal?
Ce qui me paraît important, c'est de réaffirmer aux côtés d'une collectivité, là c'était le département, mais j'ai assisté aussi à la soirée de la ville d'Avignon, de l'Isle-sur-la-Sorgue, tout bientôt celle de Carpentras, ben, de réaffirmer que ces collectivités financent le sport, mais elles ont aussi un retour, et un retour en image positive pour leur territoire. Donc c'est aussi pas désagréable quand on est un sportif et qu'on est reconnu pour ce qu'on fait, parce que on n'a pas tous les jours quelqu'un qui nous tape dans le dos en disant qu'on est extraordinaire. Donc c'est aussi agréable d'être reconnu par son territoire.
Tu parlais de la prochaine soirée des sportifs de Carpentras. Oh, bravo, bravo la transition. On va passer une petite page musicale et puis on viendra finir avec les trophées des sportifs de Carpentras.
Du sentiment, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur ça. Ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
Sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour pour la dernière partie de cette émission avec Roland Davot, le président du comité olympique et sportif de Vaucluse, le CNDS, avec qui ben, on parlait
DOS.
Le Kdos.
Le Kdos. Le CNDS, Kdos. C'est autre chose.
Ah, pardon. Le Kdos, donc, Kdos. Avec qui on évoquait un petit peu la soirée des. Le trophée des sports de Mazan. On a évoqué aussi le bénévolat, le handisport, etc. Je voudrais qu'on parle quelques minutes de la soirée des sportifs de Carpentras qui aura lieu le 29 mars à Carpentras. Où et pourquoi ?
Donc le 29 mars, l'Espace Ozon, c'est une soirée co-organisée par la ville et son office municipal des sports, Marie-Pierre Mélisy, la présidente. C'est une soirée qui, de la même façon, honore l'ensemble des résultats sportifs de l'année, qu'ils soient au niveau départemental, régional, national, voire international. La manifestation de l'année 2018 sera également récompensée. C'est une soirée qui est aussi rythmée par des clips vidéo qui ont été faits sur l'ensemble des manifestations. Je ne veux pas casser tout le suspense, mais il y a eu des grands événements. Je rappelle que la seule fan zone, on oublie que la France est championne du monde de foot, et que la seule fan zone officielle qui a accueilli près de 5000 personnes, ça a été à Carpentras. Donc ça a été pour l'ensemble du pays une émotion extraordinaire. Et sur Carpentras, ça a été pas moins, ça a été génial, sans aucun accro. Donc voilà, on va revivre l'ensemble de la soirée. Je sais que la ville de Carpentras a été de nouveau honorée par le ministère des Sports, puisque dans le cadre de la ville active et sportive, ils viennent d'obtenir un troisième laurier, maximum étant quatre. Donc c'est pour l'instance olympique et sportif, on est vraiment ravis que les villes soient reconnues pour leur engagement sur le sport, même si par essence on n'est jamais satisfait, on veut toujours mieux. Ça fait partie des valeurs du sport, on veut que ça soit mieux, qu'on ait des meilleurs équipements, qu'on ait plus de moyens, mais en tout cas savoir dire aussi merci aux collectivités et en particulier à la ville de Carpentras pour l'effort qui est fait sur le sport, c'est sur l'exemplarité d'un certain nombre de sujets. C'est une des villes qui est très précurseur sur le sport santé, notamment le sport sur prescription médicale. Il y a plus de 90 personnes qui sont suivies par son OMS et qui bénéficient d'activités encadrées et qui permet bien sûr la diminution du traitement médicamenteux. Donc c'est vraiment quelque chose d'admirable qui est fait et qui, j'espère, pourra être promu et faire de l'exemplarité de ce qui est fait à Carpentras et sur d'autres villes, et que ça soit contagieux, que les bonnes pratiques soient contagieuses.
Est-ce que vous, là, au comité olympique et sportif départemental, vous avez la main mise justement sur ce genre de, entre guillemets, nouvelles pratiques, c'est-à-dire la santé par le sport. Petit à petit, il y a des prescriptions médicales qui se font à base de sport et de moins en moins de traitements chimiques, entre guillemets. Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dessus, juste en aparté ?
Alors oui et non. C'est qu'il y a énormément de structures. On a été un peu lent à s'y mettre. Hein, on est une grosse structure et beaucoup de structures privées s'y sont engagées et ils en ont le droit. Par contre, la conviction que j'ai, c'est que le monde associatif peut faire aussi bien que le privé et que sa force, c'est qu'on peut permettre de donner une perspective de pratique. C'est que le sport santé, c'est le début. En gros, on sort d'une maladie, d'une affection longue durée. On a un encadrement renforcé, mais qu'est-ce qu'il advient de ces personnes quand ils sortent des dispositifs ? Avec nous, on peut leur proposer tout simplement d'intégrer les clubs, les 1600 clubs du département, et que l'échec, c'est qu'après ces dispositifs, les gens arrêtent le sport, et donc retombent dans les mauvais côtés de la sédentarité. Alors qu'avec notre tissu associatif, notre force, avec l'ensemble des encadrements, ils peuvent continuer à faire du sport. Donc aujourd'hui, au niveau départemental, on travaille énormément avec l'Ordre des médecins pour aussi accompagner les associations qui voudraient s'engager sur ces thématiques-là. Pour leur chacun est libre, quelque part. Mais nous, on peut leur donner une boîte à idées avec une prescription qui a été validée par l'Ordre des médecins. Je ne veux pas être trop technique, mais il y a quelque chose qui est très important dans la relation d'un patient avec son médecin, c'est le secret médical. Donc comment donner des informations à un encadrant sportif tout en respectant le secret médical ? Donc nous, on a travaillé sur ces éléments-là et que quand on va voir son médecin, on le sait, c'est 15 minutes, 20 minutes. Donc aussi un document qui permettront aux médecins de donner suffisamment d'informations à l'encadrant sportif tout en respectant quelque chose de très important, sa relation avec son patient. Donc aujourd'hui, on peut aussi accompagner sur la formation et sur l'accès aux équipements sportifs du département.
Un dernier
mot. On peut faire sans nous, Mais avec nous, c'est beaucoup mieux.
Il y a la fédération de randonnée hein, qui déjà énormément investi.
Parce que leur activité est particulièrement adaptée
à ce genre de situation, justement.
Absolument.
Un dernier mot sur les sportifs carpentraciens. On a l'impression, alors moi qui ne suis pas carpentracien, qu'il y a peu de tête d'affiche à Carpentras, à part un petit peu le motoball et ses internationaux. Mais sinon, il y a quoi le motoball, le rugby à 13 et puis
alors, on le sait peu, mais le plus gros club en termes de licenciés de la ville, c'est la gymnastique.
D'accord.
Ouais. Alors, c'est une activité qui est très souvent très féminine, mais il y a aussi un certain nombre de garçons. On a le J-Bag hein, en pétanque, qui est quand même un club et qui en plus... qui a la chance d'avoir un nouvel équipement sportif, comme quoi ils s'en créent des nouveaux avec le boulodrome couvert qui permet vraiment, qui est le seul à ce niveau-là en Vaucluse.
Qui est devenu ouvert tous les jours de la semaine.
Plus gros club du département en pétanque. La pétanque.
Futur sport olympique.
C'est ce que j'allais dire. Donc peut-être des futurs médaillés, voire champions olympiques venant du J-Bag. On a le club de natation, hein, qui est un très très gros club et beaucoup de performances. On a le club d'athlétisme, quand même. On a... Romain Legendre, médaillé de bronze au championnat de France en junior, qui est la génération 2024. Je ne veux pas vous laisser penser que je suis obsédé par les Jeux, mais quand même, c'est un objectif extraordinaire. On a un jeune de Carpentras, dans une discipline planétaire qu'est l'athlétisme, qui peut être aux Jeux Olympiques en 2024.
La future grande star annoncée, là.
Mais quand on connaît la densité de l'athlétisme français et mondial, réussit déjà un podium français... peut laisser penser. Alors là, il a dû s'expatrier sur vers Annecy. Je me rappelle plus le site exact, mais en tout cas pour pouvoir, je crois que c'est dans ce coin là-bas. Je m'excuse, j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, mais il avait besoin, comme il était devenu le meilleur de son club, d'aller se confronter à avec d'autres. Peut-être d'un niveau supérieur aussi, hein, pour passer les paliers. Mais on a vraiment des stars du futur du sport. Après, on est à l'échelon d'une ville de 30 000 habitants.
On a quand même aussi, tu oublies, on a des judokas, des karatékas, on a des champions de France, hein, faut pas oublier non plus. Donc, dans les arts martiaux.
C'est le risque de se lancer dans une petite liste. Non, mais c'est toujours.
Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est, en fin de compte, elle est très grande.
C'est aussi l'occasion pour les gens qui savent pas, comme moi, par exemple, justement, d'attirer l'attention sur tous ces sports parce que on parle surtout. Toujours des mêmes sports et
on a les archers aussi hein, de Carpentras qui
c'est
sont
vrai qu'on
mal,
a
hein.
On a deux sports et deux clubs historiques sur Carpentras, c'est le motoball et le rugby à 13 qui ont une vraie histoire qui s'inscrit depuis presque 100 ans et qui sont peut-être les plus des retours médias très importants. Je vous ai écouté en début d'émission, voilà, c'est on a le football qui se brouille bien, qui est en structuration, football qui doit être toujours accompagné.
Donc on rappelle la date, le 29 mars à l'espace Ozon à Carpentras. Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir assister à la fête du sport. Non.
Non, parce que par des raisons de sécurité, la salle peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Donc là, ce sont les clubs et leurs accompagnants qui sont honorés.
D'accord.
Ouais. Nous, on y va. Je sais qu'une année, j'y étais, j'ai assisté à cette remise des prix. C'est une soirée qui est assez longue.
Mais on a plus de 200 personnes qui sont honorées. À l'inverse de la soirée départementale, où on remet des prix qu'à 3 récompensés par catégorie, donc 25 au niveau départemental. Là, on honore tous ceux qui ont eu des performances. Donc, il y a un effet qui risque d'être répétitif, mais qui est rythmé par ces clips vidéo. C'est une très, très belle soirée qui... Et puis, il y a des représentants comme moi, olympiques, qui seront là pour reconnaître le travail qui est fait dans les territoires.
Un dernier mot avant de te laisser, Roland. Parle-nous de la nouvelle organisation du sport, puisque les comités olympiques et sportifs vont laisser place aux agences nationales du sport, aux agences départementales
aussi. C'est pas ça.
Alors, dis-nous.
Éclaire-nous. Voilà. C'est qu'on est aujourd'hui les héritiers d'un système qui est né sous le général de Gaulle. Suite à la catastrophe des Jeux de Rome où ça a été l'État a pris la main sur le sport. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, l'État finance moins de 5% du sport en France. Et c'est eux qui fixent les règles. c'était un état de fait qui était plus possible. Aujourd'hui, ce sont notamment les collectivités territoriales qui financent grandement le sport en France, et que l'organisation olympique et des fédérations est quand même plus mature. On a moins besoin qu'on nous tienne la main. L'État-providence, c'est terminé. Donc on est en face d'un système qui est à bout de souffle, on le voit, hein, où on ne peut plus être dirigé par ceux qui financent quasiment plus le sport, qui fixent des règles qui ne sont pas possibles. Donc on va faire table rase de ça pour créer l'Agence nationale du sport qui prend 30% l'État, 30% les collectivités, 30% le mouvement sportif et 10% le monde économique. Parce que le monde économique fait partie du financeur du sport. Donc on est maintenant, à partir du 2 avril, face à cette agence qui va être obligée de... où un acteur n'aura pas raison tout seul. L'an dernier, on recevait la note du ministre et les financements, c'était ça. Alors suivant les différents gouvernements, ça pouvait être très sur le haut niveau, très sur le social. On y adhère, on n'y adhère pas. Moi, je ne suis pas du tout contre le social, mais jamais au détriment du sport. C'est qu'on a le droit de ne pas accueillir des publics en difficulté si ce n'est pas notre projet associatif. Et on peut très bien faire du social dans sa vie personnelle sans le dire. Et que ce que je souhaite qu'il soit respecté, c'est le projet du club. Après, qu'on ait des volets sociaux et que... mais là, ça doit être la cohésion sociale qui finance, pas le ministère des Sports. On a le droit d'aller vers la santé, mais j'aimerais que ça soit le ministère de la Santé qui finance, pour que le financement du sport, qui principalement pour nous vient d'une taxe de la Française des Jeux sur les paris sportifs, c'est notre argent. Qu'on fasse de la politique, qu'on soit de droite, de gauche, c'est pas la question pour moi, mais la ministre qui a vraiment mis en place un système solidaire, c'est Marie-Georges Buffet, qui est restée 5 ans sous Lionel Jospin et qui a mis en place cette taxe solidaire du sport pro vers le sport amateur, et qui garantissait que le sport finance le sport. On ne demande rien à personne, on ne demande pas un impôt supplémentaire. Mais là, c'est les paris sportifs qui financent le sport, donc il faut sacraliser ce financement, mais que ça soit garant pour financer à la fois le sport des territoires et le sport de haut niveau.
Comment on fait pour se sortir de l'emprise de l'État et des collectivités locales? Parce que si je te raconte vite fait mon expérience personnelle, j'ai vécu et j'ai joué dans un pays où les collectivités locales et l'État n'interviennent absolument pas dans le financement des clubs. Ça, c'est une spécificité vraiment française, où quand on crée un club sportif, la première question, c'est combien va nous filer la mairie, combien va nous filer le département, et après, on va construire notre budget en fonction de ça. Comment on fait pour se sortir de ce truc-là? Est-ce que l'Agence nationale du sport va aider à sortir un petit peu de cette spirale-là?
C'est qu'on se gargarise, et moi le premier, de notre modèle unique du sport français, et qui est tellement extraordinaire et tellement unique qu'il n'y a aucun pays du monde qui s'en est
inspiré.
C'est ça.
Donc
ça.
Si notre modèle était si extraordinaire, peut-être que d'autres pays s'en seraient inspirés. Alors on était dans un modèle qui était plus proche de l'URSS, hein, dans un sport très étatique, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus la réalité. Mais il nous a fallu quelques décennies pour s'en rendre compte.
Parfois, il ne faudra pas encore quelques décennies pour...
Je vous rassure, dans le cadre de l'Agence nationale du sport, on ne manquera pas un de se disputer.
Chouette. Chouette.
Mais parce que l'acteur qui a dominé pendant 50 ans, il va falloir qu'il apprenne à discuter avec nous. Et avant, on discutait, mais il décidait quand même. Donc aujourd'hui, on va devoir vraiment discuter. Et donc c'est vraiment une révolution. Donc à la fois, il va falloir qu'on trouve les bons arguments. Donc c'est aussi, jusqu'à maintenant, on demandait aux autres d'être bons. Aujourd'hui, ça va être aussi à moi et à mes collègues représentants du sport d'être bons pour que les moyens y redescendent vraiment. On pouvait être angoissé, mais en tout cas, aujourd'hui, haut les cœurs, on va avoir un modèle où on est plus responsable, et je pense que c'est une très bonne évolution.
En tout cas, merci Roland, merci Valérie. On aurait pu encore parler pendant des heures de sport avec toi. C'est toujours passionnant d'avoir la vision des dirigeants et de pouvoir confronter la vision de terrain et la vision des dirigeants. En tout cas, merci Roland, merci à Théo pour la technique. Merci Valérie, et puis on vous souhaite une très très bonne soirée. Puis à très bientôt.
À très bientôt.
Bonsoir, lundi prochain.